VOA Afrique, les infos. À Washington.
Eric Manirakiza avec vous. Il est 12h à Washington. Le temps de suivre votre bulletin d'information. De principaux leaders de la rébellion des forces populaires du Burundi, FPB, ont été arrêtés samedi soir dans l'est de la Tanzanie. Il s'agit du général Jérémy Nyiranyibagira et du colonel Edouard Nshimirimana, respectivement numéro 1 et 2 de ce mouvement rebelle. Idriss Fall a joint le porte-parole des FPB, le colonel Adolphe Manirakiza.
Nos deux leaders, en compagnie de deux autres membres, ont été arrêtés dans le district d'Ongara samedi soir entre 21h et 22h. Les informations qui nous parviennent nous disent qu'ils auraient été arrêtés par les éléments de la police tanzanienne en compagnie des éléments burundais et qu'ils auraient été conduits au Burundi dans la province de Muyinga. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de traces de ces leaders, mais les informations qu'on ne sont pas précises sur où exactement ils sont et quel est leur état. S'ils ont été arrêtés sur le territoire tanzanien et extradés au Burundi, c'est une violation grave des conventions internationales en rapport avec les réfugiés qui disent qu'on ne peut pas extrader un réfugié dans son pays.
D'après le colonel Adolphe Manirakiza, il venait de passer une semaine sur le territoire tanzanien, mais n'a pas fourni plus de détails. Aucune source officielle tanzanienne ou burundaise n'a dans l'immédiat pu être jointe pour confirmer ou nier l'information. À Lubumbashi, en RDC, des militants d'opposition ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène près de l'aéroport. Ils se rendaient accueillir leur chef de file, le président du rassemblement, Félix Tshisekedi. La mission de l'ONU, la MONUSCO, a appelé les autorités à libérer immédiatement plus d'une vingtaine de militants d'opposition arrêtés la veille. Trois figures religieuses de Centrafrique, le cardinal Dieudonné Zapalainga, l'imam Oumar Kobine Layama et le pasteur Nicolas Guérékoyamene Bangou ont rejeté la religiosité prétendue qu'on attribue généralement au conflit qui mine le pays depuis 2013. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est attendu demain à Bangui. Le mandat des casquets bleus de la MINUSCA doit être renouvelé. Au Gabon, Libreville ne donnera suite à aucune demande d'enquête internationale sur les violences post-électorales d'août et septembre 2016, autre que l'enquête en cours de la Cour pénale internationale. Le porte-parole du gouvernement répondait à une requête de l'Union européenne. Le ministre kényan de l'Intérieur, Fred Matiang'i, a affirmé que les services de sécurité étaient prêts à garantir le bon déroulement de l'élection présidentielle du jeudi 26 octobre. Il a demandé aux forces de l'ordre de faire preuve à la fois de fermeté et de retenue. Le leader de l'opposition, Raila Odinga, a annoncé le 10 octobre qu'il ne participerait pas à ce scrutin. Il avait demandé des réformes au sein de la commission électorale et a estimé qu'il n'a pas été entendu. 20 ambassadeurs occidentaux ont dénoncé la détérioration de l'environnement politique en amont de la présidentielle de jeudi, regrettant des attaques contre les institutions engagées dans le processus électoral, notamment la commission électorale. Autour hier à Abidjan, de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, a regagné son pays après une absence de plus de 2 mois. Dernièrement, son chef du protocole, Souleymane Camarate Kone Di Soltosol, a été récemment incarcéré dans le cadre de l'affaire d'une cache d'armes découverte chez lui à Bouaké. Une ONG panafricaine a publié à Abidjan un guide de bonnes pratiques électorales en Côte d'Ivoire afin de préserver le pays d'une autre crise post-électorale. La prochaine présidentielle se tient dans 3 ans. Celle de 2011 a fait 3000 morts. Au Nigeria, 3 femmes kamikazes se sont fait exploser hier soir à Maïdougouri, capitale de l'état du Borno, faisant 14 morts et 18 blessés. Le directeur de la publication hebdomadaire indépendant tchadien a été inculpé et placé sous mandat de dépôt après avoir publié un article sur une affaire de trafic présumé d'immatriculation d'un avion vers la Syrie. Et au Tchad, les magistrats ont reconduit leur mouvement de grève dans toutes les juridictions du pays pour une semaine à compter d'aujourd'hui. Ils revendiquent de meilleures conditions de vie et de travail. Fin de ce bulletin d'information.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Jacques Aristide pour la Minute Éco sur VOA Afrique. Parier sur l'Afrique pour nourrir la planète, c'est le thème d'une conférence qui s'est ouverte hier dans l'Iowa aux États-Unis. L'événement, qui dure jusqu'au 20 octobre, accueille plus de 1200 participants de plus de 65 pays et coïncide avec la Journée mondiale de l'alimentation. Le président de la Banque africaine de développement, lauréat du prix mondial de l'alimentation 2017, y prend part. Akin Wumi Adesina veut accélérer le développement de l'agriculture sur le continent grâce à ses stratégies Nourrir l'Afrique. Il a promis d'y investir 24 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. La Banque mondiale est en train de promouvoir un fonds pour favoriser la création d'entreprises chez les femmes dans les pays en voie de développement, dont en Afrique. La Women Entrepreneurs Finance Initiative a le soutien d'Ivanka Trump, la fille du président américain. L'initiative vise à stimuler l'accès des femmes aux capitaux dans les pays en voie de développement. Ivanka Trump estime que les entreprises détenues par des femmes dans ces pays souffrent d'un déficit de financement de 300 milliards de dollars par an, soit parce qu'elles ne sont pas en mesure d'emprunter, soit parce qu'elles ne reçoivent que des offres trop coûteuses ou à court terme. Les pilotes de la compagnie sud-africaine Mango, une compagnie aérienne à bas prix appartenant à la South African Airways, sont en grève depuis hier. Ils réclament une augmentation salariale de 8,5%. La majorité des 110 pilotes de Mango participent à cet arrêt de travail.
Je sais que je suis difficile, Info pour